Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. C'est un homme qui a quitté la médecine pour faire de l'ondioline. Jean-Jacques Perret est un pionnier du clavier électronique, qu'il a pratiqué à l'oreille et sans formation dès les années 50. S'il est samplé et célébré par l'électro ces 10 dernières années, vénéré par Air ou Fatboy Slim, Jean-Jacques Perret reste peu connu en France. Ailleurs pourtant, l'évocation de son nom électrise. Comme sa musique, sautillante, inventive et drôle. Ce soir, dans l'atelier du son, retour sur le parcours de Jean-Jacques Perret, inventeur et homme de fantaisie dont la vie ressemble à un générique pop, où se bousculeraient les noms de certains des plus grands créateurs de ces 50 dernières années. Thomas Baumgartner reçoit ce monsieur de 83 ans et c'est maintenant écouter.
Allô ? Allô Lausanne ? Allô Lausanne ? C'est Thomas Baumgartner ici, vous m'entendez ? Jean-Jacques Perret ?
Que ça marche.
Jean-Jacques Perret, vous êtes
là ? Là, j'entends rien. Ah, moi, je m'entends.
Jean-Jacques oui, Perret, vous m'entendez ?
Il y a un écho.
Vous m'entendez, Jean-Jacques
Perret ?
Il
y a peut-être une chambre d'écho.
Est-ce que vous m'entendez ?
Je m'entends. Mais est-ce qu'on m'entend à Paris ?
Alors oui, on vous entend à Paris.
On n'entend pas à Paris.
Si. Si, si. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Jacques Perret ?
Ah, voilà.
Vous m'entendez, Jean-Jacques Perret ?
Allô, monsieur Baumgartner ?
Oui, monsieur Perret ? Vous m'entendez ? On a une bonne qualité de son, mais...
C'est pas monsieur Baumgartner.
Si. Bah pourtant, j'ai vérifié. Il y a un beau son, hein. On dirait vraiment qu'on est à la même table.
On vous entend, mais mal.
Ah bon ? 1, 2, 1, 2. 1, 2, ah. Monsieur Perret ?
Allô, oui, j'écoute.
C'est Thomas Baumgartner. Vous m'entendez ?
Monsieur Baumgartner ?
C'est moi.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Perret.
Comment ça va ?
Ça va très bien. Il y a toujours autant d'écho quand je parle ?
Non.
Ah bah parfait.
Non, maintenant c'est bon.
Parfait, très bien.
Là, je n'ai plus mon propre écho. C'est mon propre écho qui me gênait.
Oui. Donc on va pouvoir commencer.
On commence quand vous voulez et quand Lausanne sera prêt.
Sourire et son d'ailleurs, on ouvre avec The Little Man from Mars de Jean-Jacques Perret et Gershon Kingsley. C'est l'atelier du son, bonsoir à vous. Il y a les méconnus de toujours, les célébrités d'un jour, les postérités sourdes peut-être aussi, les notoriétés discrètes ou les inconnus fameux. Et puis, il y a les noms qui surgissent au détour d'une conversation. L'année dernière, ici même, s'installait Roudoudou, électro-sampleur sautillant, amoureux des images et des couleurs. Et il nous avait parlé de Jean-Jacques Perret, artiste pionnier des premiers claviers électriques. On s'était dit qu'il fallait prendre date avec l'intéressé pour évoquer un parcours, son parcours, qui va de Charles Trenet au groupe Air, en passant par Walt Disney, pour le dire... Pour le moment, un peu trop vite. Et Jean-Jacques Perret, vous êtes avec nous ce soir. Merci d'être là.
Bonjour Paris.
Bonsoir, vous êtes en duplex.
Fait plaisir de vous parler. Je suis français d'origine et évidemment, j'ai fait des tas d'émissions à Paris.
Oui.
Mais il y a très longtemps.
Oui,
Et depuis...
Mais depuis de temps en temps, il y a des gens qui viennent aussi vous rendre visite. Là, vous êtes donc à Lausanne, en duplex depuis la radio-télévision suisse. Oui. Et là, on entend, je le disais, Little Man, The Little Man from Mars. Les martiens, ça vous a souvent, toujours intrigué ?
Ah oui, je suis un fanatique de la science-fiction. Ouais. Alors, le Little Man from Mars, c'était mon premier titre sur l'album de Vanguard aux États-Unis.
Le label Vanguard, oui.
C'est ça. Alors, c'était le morceau que j'ai présenté au directeur de Vanguard. Mm-hmm. Et il m'a dit, mais c'est très original, on va faire un album avec Gershon Kingsley.
Ouais.
Alors, on l'a fait et puis ça a bien marché.
Ça, c'est un début aux États-Unis, mais il y a évidemment avant ça... Une découverte, la découverte d'un instrument qui s'appelle l'ondioline,
oui.
Qui était un des premiers, je crois pas forcément le tout premier, mais un des tout premiers claviers électriques, un peu magique. Et vous en aviez rêvé en fait de ce clavier magique.
Eh oui, c'était à l'époque où j'étais étudiant en médecine. Mmh. Et puis l'étudiant en médecine était beaucoup plus attiré par la musique que par la médecine.
Ouais.
Alors j'ai entendu à la radio une démonstration de l'inventeur de l'ondioline qui s'appelait Georges Genie à l'époque.
Mmh.
Et j'étais très étonné de voir en France il existait le premier instrument de musique électronique, mmh. qu'on appelait électronique à l'époque.
D'accord.
Eh bien, cet instrument électronique avait de nombreuses possibilités. Alors, donc...
Il ressemblait à quoi, cette ondioline, Jean-Jacques Perret ?
C'est un clavier,
ouais.
que l'on met à côté du clavier de piano.
Ouais.
On s'accompagne à la main gauche. Et avec la main droite, vous utilisez le clavier de l'ondioline.
Et ça imite des sons existants, en fait. On peut reproduire des sons d'autres instruments ?
Ah non, on ne le reproduit pas, attention.
on imite
pas, on les imite, ouais. Oui. Par exemple, on peut imiter le violon, on peut imiter le saxophone, on peut imiter le banjo, etc., la cornemuse, enfin, tout ça. Mais ce n'est pas le véritable son. Par contre, on s'y tromperait quelquefois.
Ouais, ouais. J'ai lu que l'ondioline était sur ressort ou sur élastique, ce qui fait qu'on pouvait obtenir une forme de vibrato, un vrai vibrato.
Oui. On peut faire un vibrato, effectivement, et c'est construit avec des ressorts pour faire le vibrato, pour que le son ne soit pas plat.
Trop plat, oui, oui. D'ailleurs, voilà. Il y a des vidéos en ligne qu'on trouve sur votre site internet à vous et qu'on mettra, on mettra le lien sur le site de l'atelier du son. On vous voit jouer à la télévision et on voit que vous bougez le doigt comme ça pour certains instruments que vous imitez avec cette ondioline. Vous bougez le doigt pour justement qu'il y ait ce vibrato. Je parlais de rêve à l'instant, Jean-Jacques Perret.
Oui.
J'ai lu quelque part que vous aviez rêvé d'un clavier qui imitait le son du violon. Vous l'avez trouvé avec cette ondioline alors ?
Oui, bon, j'avais été j'avais été interloqué par les possibilités de cet instrument et je me suis dit, on devrait pouvoir faire la même chose avec un violon. Et j'ai entendu ça à la radio et j'ai dit, mais c'est fabuleux, je vais jouer du violon sans violon. C'était extraordinaire. Je suis allé voir Georges Genie,
mm-hmm.
qui
l'inventeur.
M'a prêté gentiment une ondioline. Je me suis entraîné dans ma petite chambre d'étudiant. J'avais loué un piano et je jouais du violon.
Oui, oui. Et du violon avec cette ondioline. Vous avez monté en fait un numéro de cabaret.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça, mais plus tard, un peu plus tard, parce qu'il fallait d'abord que je finisse l'année.
Oui, il fallait finir l'année, pas forcément médecine. En fait, vous avez arrêté médecine, après vous êtes consacré à la musique.
Je me suis consacré à la musique et puis j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie.
Beaucoup de chance, beaucoup de rencontres, on va en parler
de ces rencontres. Beaucoup de rencontres, ouais. Oui, c'est vrai.
Une de ces rencontres, c'est Charles Trenet.
Alors, Charles Trenet, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais été engagé par Georges Genie, l'inventeur de l'ondioline, pour faire des démonstrations dans les foires mmh. internationales, foires de... Paris, foire de Milan, foire de Stockholm, je ne me souviens plus exactement.
Mmh.
Et puis, alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à gagner ma vie.
Oui.
Parce que mes parents étaient un petit peu inquiets sur mon avenir. Alors je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je vous promets que je vais faire une carrière dans ce domaine. Bon, j'avais prévu ça, je l'avais rêvé en fait. Alors donc j'ai rencontré Charles Trenet qui m'a demandé de l'accompagner dans une de ses chansons qui s'appelle « L'âme des poètes ». Et il voulait trouver un son différent des sons de l'orchestre. Alors il m'a fait appeler par son éditeur, Raoul Breton. Et je suis allé au studio. Je suis arrivé au studio et puis je déballe l'andioline, je branche l'andioline, je la corde, etc. Et à côté de moi, il y avait un autre musicien qui jouait de...
De la guitare ?
De la guitare.
Ouais.
Comment vous savez ?
Je ne sais pas, j'essaie de deviner.
Eh bien, vous avez deviné. Et je lui ai dit à ce monsieur, mais vous savez, vous ressemblez beaucoup à Django Reinhardt.
Il lui ressemblait beaucoup.
Oui. Alors donc, on a sympathisé avec Django et puis on est allé boire le pot après la séance d'enregistrement.
Est-ce que dans L'âme des poètes, on entend Django Reinhardt ?
Ben, vous savez, la guitare, c'est un instrument d'accompagnement, en fait. Mmh. C'est simplement comme la basse ou la batterie, ce sont des instruments d'accompagnement. Le piano peut se permettre de faire des fioritures. C'était à l'époque où les artistes, compositeurs et pianistes accompagnaient les vedettes. C'était fantastique. Et c'était une époque fantastique. C'était dans les années 50 déjà.
Est-ce qu'on écouterait L'âme des poètes, justement, de Charles Trenet avec, c'est signé Charles Trenet et son quartet ondioline.
C'est ça.
Donc
oui.
C'est vous, derrière, on vous entend, on entend votre ondioline.
On entend l'ondioline, mais on l'entend à la moitié à peu près de la chanson.
Bon, ben on va tendre l'oreille.
Ok.
Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Qui rendent gais, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Faux violon. C'est une finale avec un faux violon.
Oui, c'était Charles Trenet et son quartet ondioline. Et donc à l'ondioline, on l'a entendu, donc, comme vous disiez, au milieu de la chanson, votre ondioline, Jean-Jacques Perret. Oui. Vous parliez de Django Reinhardt rencontré au moment de ces séances d'enregistrement avec Trenet. Votre origine musicale, à vous, c'est le jazz.
C'est un peu tout. Je, vous savez, je joue n'importe quoi.
Ah, vous avez une capacité, vous êtes un caméléon musical. Vous êtes compositeur, on va le voir hein, ce soir, on va l'entendre.
On pourrait dire, oui. Ouais. Caméléon. Souvent, souvent c'est pas des, mal, ça. C'est de retenir.
Souvent des clins d'œil, des clins d'yeux dans vos compositions. Est-ce que vous aviez un rêve américain à ce moment-là? On est dans les années 50.
J'y pensais, mais pas encore.
C'est venu comment alors?
Parce que après avoir accompagné Charles Trenet, on a enregistré 4 titres. Donc L'âme des poètes, Ma maison, Mon amour est parti pour longtemps et Mon vieux ciné. Ce sont les 4 albums, les 4 titres que j'ai enregistrés avec Charles Trenet. Mmh. Et alors après, je suis allé à la montagne pour présenter mon show, mon spectacle, qui s'appelait Le tour du monde en 80 jours. Mmh. J'ai été le faire en Haute-Savoie, dans un cabaret. Mmh. Et là, dans ce cabaret, à la fin, bon, applaudissements du public, je range mon violine et je retourne à l'hôtel.
La vie d'artiste.
La vie d'artiste, mais alors. le sommeil tard. Alors, le sommeil tard, c'est-à-dire je suis arrivé vers 23h45 à l'hôtel, et là, le portier me dit « Il y a quelqu'un qui vous attend. » Alors, je range mon violine avec les bagages, et puis j'arrive au restaurant, qui était encore ouvert, un monsieur qui était là tout seul, et j'arrive près de lui, il se lève, et je lui dis « Mais vous êtes monsieur Cocteau ?» Oui, je suis Jean Cocteau et j'ai été ravi d'entendre votre tour du monde. Mmh. Et je vais vous donner un petit conseil. Alors, évidemment, là, je vais un peu plus rapidement parce qu'on ne va pas raconter des tas d'histoires de ma vie. Jean Cocteau me dit, vous devriez aller aux États-Unis pour présenter cet instrument. Mmh. Et c'était en 58. Ouais. Alors, j'ai dit, vous savez, les États-Unis, c'est loin, c'est cher, ça coûte de l'argent. Alors Cocteau me dit, ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un qui va vous aider. Une personne qui va vous trouver un sponsor aux États-Unis. Ah bon, alors donc, j'attends une quinzaine de jours. Et 15 jours après, je reçois un petit coup de fil de la secrétaire d'Edith Piaf qui me dit, Madame Piaf serait ravie de vous rencontrer, elle a entendu l'ondioline et elle voudrait vous entendre.
Donc Jean Cocteau vous met en contact avec Edith Piaf.
Exactement.
Avec, que vous rencontrez, avec qui vous travaillez. Vous allez même aller sur la scène de l'Olympia avec elle, je crois.
Après, oui. Après cette rencontre, parce qu'à l'époque, je ne la connaissais pas. Ouais. Elle ne me connaissait pas non plus. D'ailleurs, personne ne me connaissait à l'époque. Elle me dit, Cocteau m'a dit que vous aimeriez aller aux États-Unis. Je lui dis, ben, j'aimerais aller aux États-Unis, bien sûr, mais je n'y avais pas pensé, c'est lui qui y a pensé. Mais vous savez, c'est très cher les États-Unis, il faut prendre l'avion, il faut prendre le bateau, etc., etc. Il me dit, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Edith n'était pas du tout douée pour le clavier, mais elle a quand même entendu l'ondioline.
Elle avait de l'oreille quand même.
Ah oui, voilà. C'était un monstre sacré. Edith Piaf, c'était une grande dame. Mm-hmm. Une des plus grandes dames de la chanson que j'ai connue. Voilà, alors donc...
Elle vous met en contact avec une sorte de mécène aux États-Unis?
Non, avec mon sponsor.
D'accord.
Et c'était un milliardaire.
Ouais.
Un milliardaire. J'arrive à New York et...
C'est un homme qui était dans la musique, qui vendait des instruments, qui avait un studio d'enregistrement.
Il vendait des instruments, oui. C'est Carole Bratman. Mm-hmm. C'était Carole Bratman. Et il m'a installé un studio. Il a voulu devenir mon sponsor. Il m'a dit, je crois en ondioline. Et puis, je voudrais avoir la visite aussi de Georges Genis. Je vais lui envoyer un billet d'avion.
Un billet comme il l'avait fait pour vous, Georges Genis, l'inventeur. Mais à ce moment-là, vous commencez à, encore une fois, montrer les possibilités de l'ondioline, mais vous le montrez à la télévision américaine. Où oui, les gens commencent à vous reconnaître dans la rue, non?
Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. La première fois que je me suis produit à la télévision, c'était avec Johnny Carson, une vedette. Genre, je ne sais pas comment... à l'époque, vous avez connu Jean Nohain, peut-être.
C'était un peu le Jean Nohain américain.
C'était le Jean Nohain américain, oui, c'est ça.
Ça ferait plaisir à Johnny Carson.
Et Johnny Carson, le pauvre, maintenant, il n'est plus là.
Bien sûr, bien sûr.
Mais il veille sur ma
destinée. Mais c'était une star et vous passez dans son émission.
Voilà, je passe dans son émission. Et puis, on me dit, mais vous n'avez pas le droit de travailler aux États-Unis. Il vous faut une carte verte. Ah oui. Et il vous faut aussi appartenir à un syndicat. Mmh. Ah bon ? Je dis ça à Carole, elle me dit, mais pas de problème, demain on va s'en occuper. Il téléphone, il dit, oh ben, pour un monsieur que, oui, oh ben, on vous connaît, bon ben alors, la carte verte sera prête après-demain. Et puis, même chose au syndicat. Et là, j'ai pu travailler en gagnant des sous, comme on disait, en gagnant quelques sous. C'est-à-dire beaucoup de sous aux États-Unis. Ouais. J'ai téléphoné à mon père et à ma mère, je suis sauvé, je travaille aux États-Unis.
Voilà, vous viviez ce rêve américain dont on parlait tout à l'heure, vous commencez à tourner, à montrer l'ondioline, et puis vous êtes aussi compositeur, vous allez vers des formes d'expérience. Alors évidemment, là je vais un peu plus vite, mais oui, justement oui. Pour faire entendre ce que vous faites, et on parlait des clins d'œil tout à l'heure et de références, je propose une nouvelle écoute et on en parle juste après. Jean-Jacques Perret est l'invité de l'Atelier du Son ce soir sur France Culture. Jean-Jacques Perret, vous êtes en duplex avec nous depuis tout à l'heure, 23h à Lausanne, à la RTS, un studio de la RTS. Est-ce que, parce qu'on parlait des États-Unis, c'est le lieu où finalement vous prenez, on va dire, votre envol en tant que compositeur de musique et où vous trouvez aussi votre style? Est-ce qu'on peut dire que ce que vous voulez faire, c'est de la musique positive?
Un petit peu, dans une certaine mesure, oui. Là, vous avez entendu des bourdons, ouais. Des bourdons qui chantaient. Mm-hmm. Alors ça, c'est un truc. C'est un truc que j'avais inventé. Ouais. Avec de la bande magnétique, j'ai enregistré des bourdons. Mm-hmm. Et puis, je les ai trafiqués dans un système, dans le studio que m'avait installé Carole Bratman, mon sponsor. Ouais. Ouais. Un studio fantastique. Extraordinaire, j'avais tout ce que je voulais.
Vous avez fabriqué des boucles, en fait, c'est ça ?
J'ai fabriqué des boucles, oui.
C'est une adaptation du vol du bourdon, évidemment, de Rimsky-Korsakov. Et mm-hmm. C'est Flight of the Bumblebee, hein, on est aux
exact.
États-Unis.
Voilà. Vous connaissez tout.
Et donc, ces boucles étaient, comment physiquement, c'était une boucle, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire, ça a été fait en plusieurs fois. Mm-hmm. C'était une boucle que j'avais enregistrée en Suisse. J'avais enregistré en Suisse le vol, les bruits. Et les sons des bourdons. Mmh. Et alors, donc, je me suis attaché à ça. Ça a duré environ 80 heures, mais j'ai réussi à sortir cette chose-là. Et j'ai présenté ça à Vanguard, qui est une...
Un grand label de jazz.
C'est un label de choses originales.
Oui.
C'était John Baez, je ne sais pas si vous vous souvenez de John Baez, qui avait financé cela. Mm-hmm. Ensuite, alors je me suis dit pourquoi ne pas continuer. Et j'ai fait des boucles avec des sons qui venaient de nulle part et d'ailleurs. Des sons comme par exemple le son d'une bouteille que l'on frappait pour avoir une note
une
bien précise,
ouais.
Etc. Alors évidemment, pour changer les notes, il fallait mettre de l'eau dans la bouteille, etc. etc.
Mais ce que vous faites là dans un studio donc, mis à votre disposition par ce sponsor, ce sont des choses que quelques années plus tard, dans la pop et dans le rock, certains tenteront de faire, feront cette sorte de tentative, ce travail de laboratoire de son. Vous le faites avec un peu d'avance sur eux. Et d'ailleurs, on dit aujourd'hui que vous êtes le premier à avoir fait de l'électro grand public, parce qu'il y a ça aussi. L'idée, c'est d'aller vers le public.
Oui, vraiment, aller sur le... Enfin, faire des morceaux qui ne soient pas trop ennuyeux, qui soient un peu originaux et qui soient surtout humoristiques. Alors, la question, être humoristique et surtout aussi plaire aux enfants, parce que j'adore les enfants.
Ouais.
Et justement, j'avais à l'époque une fille qui était née en 55, donc comme c'était dans les années 60, elle avait 7 ou 8 ans. Mm-hmm. Et je me suis dit, je voudrais faire des choses pour elle.
Ouais.
Et puis j'ai réussi à la faire sourire. J'ai même fait chanter des bébés aussi.
Ah oui?
Oui. Tous les sons, on peut les enregistrer. Mm-hmm. Et les mettre ensemble, les trafiquer. Mm-hmm.
Quand ça plaît aux enfants, Jacques Perret, en général, c'est bon signe pour la qualité générale.
Ah oui, parce que si l'enfant sourit, d'abord il est heureux, mm-hmm. et ensuite il dit à son maman, je veux acheter ce disque-là, mm-hmm. je veux acheter ce disque-là. Alors évidemment, c'est Vanguard qui a fait déjà au départ une très bonne affaire commerciale.
Dans le Vanguard, vous éditez et éditez des productions, vous signez avec Gershon Kingsley, qui signera plus tard un morceau qui s'appelle Popcorn, qui est bien connu.
Ah oui, vous connaissez ça,
voilà.
Oui.
Mais avec lui, en fait, c'est un vrai duo de chercheurs qui en même temps cherchent dans le son et cherchent à l'appliquer, c'est-à-dire que vous signez des musiques qui sont entendues.
Exact. Avec une seule différence, c'est qu'il fallait aussi avoir des musiciens pour vous accompagner. Mmh. Une guitare, une basse, une batterie, une clarinette ou quelque chose d'autre. Et puis on s'est amusé comme des fous dans ces studios.
C'était un laboratoire.
C'était un studio laboratoire. Ouais. Oui, il y avait énormément d'instruments de musique,
J'imagine des micros, des Revox, des choses qui permettent d'utiliser la bande.
Oui, et puis surtout des effets spéciaux, comme par exemple l'écho, la chambre d'écho.
La chambre d'écho. Compositeur-chercheur, compositeur-bricoleur, vous accepteriez ce type de description de ce que vous faites, de ce que vous êtes?
Bah oui, je suis un petit bricoleur de la musique, oui, vous avez raison, absolument.
Alors les rencontres se poursuivent, et une des rencontres, c'est Walt Disney.
Alors c'est là où vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Je faisais une émission chez Johnny Carson, justement dans les émissions de Johnny Carson, de Tonight Show, il y avait Walt Disney qui était invité. Et vous savez comment sont les artistes, ils aiment bien se connaître les uns les autres. Mm-hmm. Alors je fais mon numéro, Johnny Carson hurlait de rire, et puis les spectateurs étaient heureux d'entendre de la musique nouvelle. Mm-hmm. Et puis alors à la fin de mon interview avec Johnny, je retourne dans les vestiaires pour me rhabiller, prendre mon violine et repartir.
La vie d'artiste.
La vie d'artiste, comme d'habitude. Mais c'était beaucoup plus tôt à ce moment-là, parce qu'aux États-Unis, on enregistre à l'avance et on monte, on fait le montage après.
Ouais, c'est pas chez nous qu'on ferait ça.
Non, mais vous savez, c'est quand même quelquefois intéressant
bien sûr.
D'entendre des artistes qui, comme moi, ne sont pas très, très doués en... ne sont pas très doués pour parler. Voilà.
Et donc, bon. Vous rencontrez Disney ce jour-là ?
Je rencontre Disney, qui me dit « Est-ce que vous aimeriez venir chez moi à Hollywood pour m'enregistrer des sons spéciaux ?» Monsieur Disney, ce sera avec grand plaisir. Alors, il me dit « Écoutez, on prend rendez-vous. » Et à ce moment-là, je reprends l'avion parce que je repartais en Europe, je repartais en bateau. D'abord parce que je ne payais pas parce que je faisais quatre numéros.
Votre récital en fait, quatre fois sur quatre reprises sur le France souvent. C'était,
oui, c'est ça, quatre reprises. Alors Disney m'accueille à Hollywood et il avait pas un château mais une maison extraordinaire, et puis il avait pour ses invités un bungalow. Alors Walt Disney m'offre un bungalow, évidemment, également on avait des repas ensemble, et puis il me disait, voilà, j'aimerais avoir ce son-là, j'aimerais avoir ce genre de son, la chute d'un piano, par exemple. Mm-hmm. Enfin, vous savez, les dessins animés, vous connaissez bien
voilà,
sûr.
Voilà, le bruitage, l'accompagnement des cartoons.
Les bruitages, mm-hmm. Voilà. Et puis au bout de 10 jours, Disney avait fait enregistrer dans son studio au moins 4 ou 5 bobines de son. Mm-hmm. Et il m'a dit c'est fabuleux, Monsieur Perret, surtout si vous revenez aux États-Unis et si vous revenez à Disneyland, qui existait déjà à l'époque, mais c'était moins commercial à l'époque. Et il me dit quand vous voulez. Et puis il me dit combien je vous dois. Oh, je dis Monsieur Disney, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli aussi d'une façon aussi extraordinaire. Et croyez-moi, c'est moi qui vous devrai de l'argent. Et il ne dit rien. Et puis je reprends l'avion pour New York. Mm-hmm. 3 jours après, je reçois un chèque de 4 000 $. De Disney. Alors j'ai pas osé lui dire reprenez vos 4 000 $. Et puis moi ça me faisait très plaisir aussi.
Hein. Oui, mais c'est un lien d'ailleurs avec Disney qui va se poursuivre au-delà d'ailleurs de la disparition de Walt Disney lui-même, puisque avec votre compère Kingsley vous composez une musique qui va accompagner les défilés dans non seulement à Disneyland mais dans d'autres Disneyland dans le monde. Ça s'appelle Barack Away Down, c'est ça?
Eh bien, vous avez raison. Et oui, c'est vrai, Barack Away Down, c'était un des hymnes, en fait,
oui. des parcs Disney que vous signez.
Bon, et je ne sais pas combien de millions de gens l'ont entendu.
Bon, on va en ajouter, on va dire quelques dizaines.
Allons-y.
Thank you.
Bon, on a un peu triché là, Jean-Jacques Perret.
Oui, j'ai compris, mais c'est pas grave.
Après Barocco et Dame, là, on entend Visa to the Stars.
Oui,
il paraît que, avant de composer Visa to the Stars, vous avez dit, allez, faisons un tube.
Oui, et c'était avec mon ami à l'époque, c'était Angelo Badalamenti, qui est un compositeur de musique de film.
Ah oui, bien connu, oui, qui a composé, oui. Qui compose pour David Lynch souvent.
Pour David Lynch, c'est ça.
Et donc vous avez travaillé ça ensemble, vous avez fait Visa to the Stars tous les deux.
Oui, bien sûr, on a imaginé la mélodie et on l'a enregistrée.
C'était quoi l'ambiance, donc on est là la deuxième partie des années 60, c'était quoi l'ambiance de travail autour de vous, avec vous? Comment ça se passe quand vous composez? D'où vient l'inspiration? Enfin, voilà, y a plein de questions là.
Ah, j'avais amené les bourdons, c'était une véritable ruche. Une véritable ruche. Et d'ailleurs, il y a une petite chose que je voudrais vous dire.
Oui.
On est entre nous. Il faudra que je vous explique comment j'ai rencontré Gilbert Bécaud.
Bah dites-nous.
Alors, prêt ?
Allons-y.
J'aimerais vous l'enregistrer. Bon. Un jour, j'arrive dans le studio et en face de moi, il y avait un autre studio de répétition. Mmh. Et c'était Gilbert Bécaud qui était venu avec son orchestre pour faire son show à New York. Mmh. Et puis, à la fin, Gilbert Bécaud sort de du studio avec son pianiste. Et Gilbert Bécaud me dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ?» Alors, je lui dis « Je fais comme vous, je déconne. Non, excusez-moi, je plaisante, voyez-vous, plaisante gentiment, et puis je fais des choses pour... Ah, mais c'est fantastique. Et là, il y a son pianiste qui me dit « Écoutez, Monsieur Perret, j'aimerais bien travailler avec vous. Mm-hmm. » Et son pianiste, c'était un grand bonhomme, c'était Gilbert Sigrist. Mm-hmm. Gilbert Sigrist est un compositeur extraordinaire. Et nous avons fait ensemble... deux albums, quand je suis revenu en France, bien sûr. Et nous avons fait également quelque chose que j'aimerais vous passer sur vos antennes, parce que c'est très amusant. Il y a énormément de bruitages, de bruitages amusants, bruitages marrants, comme on dit. Et ça s'appelle Groovy Leprechauns.
Ah, mais très bien.
Alors ça j'aimerais qu'on l'entende. En entier, si c'est possible.
En entier, Groovy Leprechauns.
Groovy Leprechauns.
C'est vrai que c'est un morceau assez étonnant et même très moderne. Et pour tout vous dire, ça tombe bien parce qu'on l'avait un peu sous le coude, Jean-Jacques Perret, ce morceau. Et on y se trouve sur un album collectif, il a été repris en 99. Et vous êtes aux côtés de Beck, de R, le groupe R, de Sean Lennon, de Sonic Youth, enfin de toute une série de figures, on va dire, du son travaillé, de gens qui ont le souci du son. Groovy Leprechauns, on l'écoute en entier, alors vous voulez en entier?
Si c'est possible, oui. Thank you.
En intégrale. Bah oui, bah je crois que c'était dans le morceau, ça.
oui.
Groovy les Precons, comme vous le vouliez. Jean-Jacques Perret, que vous avez donc composé avec Gérard Sigrist, le pianiste de Gilbert Bécaud, comme vous nous le racontiez.
C'est Gilbert Sigrist.
Gilbert Sigrist. Oui. Et bah justement, vous avez bousculé le programme, à moi de le bousculer. Je vous propose un petit test, on va garder les micros ouverts. Je vous propose d'écouter ça.
C'était un de mes fans avant d'aller aux États-Unis.
Spike Jonze. Spike Jonze qui a partagé quand même un esprit avec lui donc évidemment quelques années auparavant, mais un homme du jazz qui aime bien bousculer les choses et rire avec la musique.
Oui, et il est même venu me voir dans mon studio parce qu'il avait entendu des extraits d'albums de chez Vanguard et il m'a dit mais je ne savais pas que vous aviez fait ça et vous félicite. Et j'ai dit mais Monsieur Spike Jonze, je ne sais pas s'il s'appelait Spike Jonze, mais enfin bon, Spike ça voulait dire clou.
Oui.
Bon. Donc, c'était son nom d'artiste.
Ah oui, c'est son nom d'artiste, comme d'ailleurs Jean-Jacques Perret est votre nom d'artiste. Mais
Comment vous savez ça?
On peut se renseigner, vous savez, aujourd'hui. On a les moyens à la radio, on a quelques moyens pour se renseigner.
Oui, bien sûr.
Il y a eu ce salut de Spike Jonze à votre travail, qui était aussi une de vos inspirations, vous l'avez dit, et quelqu'un que vous connaissiez, que vous écoutiez avant. Et puis, à un moment donné, vous-même, vous signez donc tous ces morceaux qui servent pour, notamment, la publicité, pour la télévision, et puis qui sont écoutés, qui deviennent célèbres. Et puis, il y a un morceau qui devient une sorte de tube et qui... En tout cas, à mes oreilles, je pense à l'oreille de beaucoup d'auditeurs de ce morceau, emporte avec lui l'époque où il a été fabriqué, un peu toute l'époque, et la rend d'une certaine manière, la rayonne. Ce morceau, c'est EVA, Extravehicular Activity, ou EVA. Oui. On écoute quand même pour se le remettre dans l'oreille.
Bien sûr, allons-y.
Alors, Extravehicular Activity, EVA, qui date de 1970, ça prélude un peu aussi à votre retour en France, où votre travail est moins connu à cette époque-là. Et pourtant, quelques années plus tard, après justement quelques années passées en France, vous réentendez des morceaux de ce Extravehicular Activity qui devient une sorte de sample mondial repris par plusieurs groupes. On va en écouter quelques-uns, par exemple Gangsta en 91, Just to Get a Rap. Thank you.
brothers are amused by other brothers' reps, but the thing you know best is where the gun is kept. Cause in the night you'll feel fright, and at the sight of a 4/5, I guess you just might wanna do a dance or two. Cause he could maybe bust you for self or with a crew. No matter if you or your brother's a star, he could pop you in jet without a getaway car. And some might say that he's a dumb.
Même chose, quelques années plus tard, avec House of Pain en 96, avec le morceau Fed. You know what time it is? House of Pain, killer rhyme, click up in this piece. Scheme team, LK, gifted unlimited, everlast, what's up? You know the attribute, baby. Time is I say brothers are amused by other brothers' reps, but they're all playing roles just like Omar Epps. I see so many players, I wonder where the coach is. My name's Everlast, smart to kill like roaches. The dough that you're making got you frontin' and faking. Your heart's been shook, brains cooked like bacon. Can't believe you're not butter, you thought you was on it. I'm trying to flaunt it, but it's just blue bonnet. Et puis aussi le remix d'un grand nom de l'électro. Pareil, un peu dans la foulée, à quelques années près, oui. Fatboy Slim, mais oui, un anglais, remix de Fatboy Slim de EVA. It's to feel real good. Voilà donc Fatboy Slim pour finir cette petite liste qui aurait pu être beaucoup plus grande de gens qui ont samplé, qui ont pris dans votre œuvre, en particulier dans EVA. Et Jean-Jacques Perret, est-ce qu'on peut dire que votre musique a infusé finalement ? Elle réapparaît, elle est réapparue au milieu des années 90, elle n'avait pas disparu, mais elle était plus méconnue, plus ignorée, et ce n'est plus le cas.
C'est vrai, mais de toute façon, vous savez, c'est un genre de musique que beaucoup de gens ignorent et n'aiment pas, parce que c'est, pour certains, c'est obsolète, pour certains, c'est peut-être un petit peu une musique de l'avenir, mais bon, c'est de la musique.
Oui.
Ce n'est que de la musique.
C'est que de la musique, mais ces derniers temps, on vient vous chercher. Certains viennent vous chercher pour des collaborations. Dana Countryman, David Shazam, c'est des gens. Voilà, Luke Vibert aussi, voilà, des gens qui ont voulu faire la musique avec vous. Comment vous réagissez quand on vient frapper à votre porte comme ça ?
Ben, j'ouvre la porte, tout simplement. Et j'y entre. Qu'est-ce que vous buvez ? On va boire un petit Coca-Cola ou un petit scotch. Mais j'aime beaucoup les musiciens, j'aime beaucoup les artistes et je les respecte beaucoup parce que ce sont des gens qui sont patients. D'abord, il faut être patient. Et ensuite, il faut aimer. Il faut aimer votre prochain, comme on dit. Ouais. Il faut surtout respecter vos auditeurs.
Oui, c'est au cœur de votre musique, puisque c'est une musique pour les gens. Vous avez fait, vous parliez il y a un peu de musicothérapie. Il y a un disque, je crois, que vous avez fait qui s'appelait Prélude au sommeil pour relaxation. La musique pour les enfants, pour les bébés, vous l'aviez dit.
Oui. Il y en a un qui s'appelait aussi Relaxation Alpha, qui était le plus efficace. Oui.
Et pour les dauphins aussi.
Ah, les dauphins, c'est toute une histoire. Alors là, il faudrait une deuxième émission pour vous raconter des choses extraordinaires sur les dauphins.
Bon, on va mettre des points de suspension alors. Mais,
oui.
Aujourd'hui, qu'en est-il de l'ondioline ?
Ben, l'ondioline, elle repose dans sa boîte, malheureusement. Elle n'est plus vivante parce qu'elle est très vieille. Comme moi, d'ailleurs. Mais enfin, bon, pas tellement vieux. Et avant de partir...
Oui.
Combien de temps on a encore pour le...
Je crains que ça se compte en secondes, Jean-Jacques Perret.
Ah, ça se compte en secondes, c'est dommage.
Mais dites-nous.
Oui, alors j'aurais aimé simplement que vous passiez un morceau en particulier. Peut-être qu'on pourra faire en sorte de...
De le mettre en lien, par exemple, sur le site de l'émission.
Il faudrait l'écouter très attentivement.
Ouais.
C'est un morceau assez symphonique et qui est destiné à ma fille, qui est là en face de moi.
Ouais.
Elle le connaît. Ça s'appelle « Pour l'amour de toi ». Et c'est une chanson qui a été composée aussi avec Gilbert Sigrist.
Mmh.
Alors, avant de partir, je vous dis à tous merci. Merci à France Culture, qui est une de mes stations préférées, parce que même en Suisse, on reçoit France Culture. Et puis, alors, je peux vous dire peut-être à la prochaine fois.
Bah oui, à bientôt, Jean-Jacques Perret.
Merci, Monsieur Baumgartner. Au revoir.
Sur Girl from Venus, toujours l'espace Jacques Perret. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour raconter ce parcours hors norme et toutes ces rencontres. Vous étiez en duplex depuis la RTS à Lausanne. On met la liste évidemment de tous vos albums sur le site de l'Atelier du Son, avec les liens qui vont avec, sur franceculture.fr. On recommande le DVD Prélude au sommeil, un documentaire sur vous que signe Gilles Weinz-Eplen, où on croise notamment Angelo Badalamenti, le groupe R, Michel Gondry, Gershon Kingsley, dont on a parlé et qui parle de vous. Et puis il y a un autre DVD qui s'appelle Jean-Jacques Perret, Life, Laughter and Loops. Ben voilà, de quoi en avoir plein les yeux autant que plein les oreilles. France Culture, franceculture.fr, c'est aussi là qu'on trouve le podcast, la réécoute et les commentaires. On vous recommande l'application France Culture sur mobile pour mettre toute la chaîne dans votre poche. L'Atelier du Son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et Anne De Biran. Au son ce soir, il y avait Jason Taous à Paris et David Chaput à Lausanne. Et à la réalisation partout, Gilles Davidas, Thomas Baumgartner. Je vous laisse dans quelques secondes avec Aurélie Charron et je vous dis à vendredi prochain.
Les ateliers de la nuit, c'est fini. Nous sommes tous ateliers intérieurs, ateliers du son, ateliers création et fiction, à réécouter et à podcaster. Il suffit de dire oui sur le site internet de France Culture. La semaine prochaine, on se retrouve mardi avec Néon Néon de Bertrand Chaumeton et Angélique Thibault. En cette année 2012, centenaire de la naissance du néon, une traversée radiophonique d'univers néontique entre l'art, la publicité, le chic et la communication. Mercredi soir, dans l'atelier fiction, c'est la suite du cycle consacré à l'écrivaine allemande Anna Segers, proposé par Ariane Ascaride et Hélène Roussel. Une écriture en résistance et des légendes en contrebande. Jeudi soir, paysage de Caroline Carlson, de Florence Forsyth et Myriam Guillot. À la cartoucherie de Vincennes, la chorégraphe américaine a installé son studio, c'était en juin dernier, pour un Poetry Event, un événement poétique non reproductible. Vendredi soir, Thomas Baumgartner, dans son atelier du son, recevra le bruiteur, conteur, chanteur, Kalitka. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, on sera en direct de 23h jusqu'à minuit. En attendant, il sera bientôt minuit sur France Culture et vous retrouvez Alain Weinstein du jour au lendemain.